Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Tunisie, le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé dans le pays a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 9 août au siège de l'instance électorale indépendante chargée des élections à Tunis. La présidentielle, initialement prévue en novembre, a été avancée au 15 septembre à la suite du décès du président belge Haïdé Sebsi le 25 juillet à l'âge de 92 ans. Ce matin, 8 candidats ont déposé leur candidature, dont l'homme d'affaires et mania des médias, Nabil Kaoui. Conflit en Libye, nouveau combat entre les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale GNA et les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Des combats au sud de Tripoli, la capitale. Au moins 9 combattants pro-GNA ont été tués jeudi dans ces affrontements. Un porte-parole du général du GNA a aussi fait état de pertes dans le camp des partisans du maréchal Haftar, qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. 6 combattants pour Haftar ont été capturés, selon le GNA. Après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar piétinent aux abords de la capitale défendue âprement par les forces loyales au GNA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats dans la région de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés. Au Soudan, poursuite des négociations entre le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation sur un accord de transition. Les généraux dirigeants de pays ont annoncé l'arrestation de 9 membres des forces de soutien rapide RSF pour la mort de jeunes manifestants tués par balles. Et ce, après le décès de 4 protestataires abattus jeudi à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, la capitale, lors de rassemblements organisés à travers le pays à l'appel du mouvement de contestation pour dénoncer la mort de 4 lycéens lundi à Al-Obeide, ville du centre du pays. Une enquête a été ouverte sur les événements d'Al-Obeide et 7 membres des RSF ont immédiatement été limogés et remis à la justice civile pour être jugés, a déclaré le général Shamseddine Kabachi à la presse ce vendredi. Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo maintenant. 2 nouveaux cas de contamination au virus Ebola en 24 heures à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et 2 décès aussi. C'est la psychose qui s'installe. La frontière avec le Rwanda a été fermée plusieurs heures hier, même si Kigali a démenti toute fermeture. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un an après l'apparition du virus dans le Nord Kivu et une quinzaine de jours après la détection du premier cas à Goma, 3 membres d'une même famille ont été touchés par l'épidémie. Après le père empailleur décédé mercredi, une de ses filles âgée d'1 an et sa femme ont été testées positives. Jeudi matin, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC avant de la rouvrir en début d'après-midi. Pendant quelques 8 heures, les Congolais n'ont pu aller à Gisenyi, frontalière de Goma. L'épisode a irrité Kinshasa qui a estimé que c'était à l'encontre de la recommandation de l'OMS sur la libre circulation des personnes. Cependant, Kigali a nié toute fermeture de frontières. Dans la province voisine du sud Kivu, une femme proche de l'empailleur a été mise en quarantaine avec 14 autres personnes. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a déclaré que les tests effectués sur ces 15 suspects se sont révélés négatifs. L'épidémie, qui a fait plus de 1810 morts et touché plus de 2700 personnes, a été élevée par l'OMS au rang d'urgence sanitaire mondiale.
Au Cameroun, le leader des séparatistes anglophones Julius Ayok Tabe a entamé une grève de la faim depuis la prison de Yaoundé pour protester contre ce qu'il qualifie de disparition de co-détenus après les mutineries dans 2 pénitenciers. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Maître Joseph Fou, membre d'un collectif d'avocats qui défendent les séparatistes, Julius Ayok Tabe et 9 de ses partisans ont cessé de s'alimenter pour une durée indéterminée. « Nous portons à votre attention notre décision de manifester par une grève de la faim », a écrit mardi M. Ayok Tabe dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso. Dans ce document, les grévistes disent ainsi protester contre la disparition de leurs compatriotes de la prison centrale de Yaoundé et de celle de Boya après les récentes mutineries qui ont secoué ces deux prisons. Les détenus anglophones demandaient d'être traduits en justice et l'amélioration de leurs conditions de détention. Après ces incidents, le gouvernement a annoncé l'arrestation des 177 personnes qui ont été transférées ailleurs. Une rumeur faisant état du présumé acte de torture ayant entraîné la mort de Mancho Bixi, un des leaders anglophones, a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être démenti par le gouvernement. Selon Yaoundé, 45 personnes, dont 43 détenus, ont été blessées et 20 protestataires arrêtés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Guinée équatoriale, Amnesty International s'inquiète du traitement réservé aux opposants. L'organisation de défense des droits humains basée à Londres cite le cas de Joaquin Elo Ayeto, arrêté fin février à Malabo et toujours en détention. Le prisonnier a été battu violemment au poste de police alors qu'il était pendu par les mains. Le point avec Anna Dodson.
Amnesty International a dénoncé ce vendredi la torture, la répression politique et les nombreuses violations des droits de l'homme sous la présidence de Teodoro Obiang Nguema. Ce dernier s'apprête à célébrer demain ses 40 ans à la tête de son pays. La gouvernance de ce petit pays hispanophone, qui bénéficie d'une importante manne pétrolière, est régulièrement critiquée par des ONG de défense des droits de l'homme. Une loi approuvée en 2006 interdisant la torture n'a pas été appliquée puisque la police continue d'utiliser régulièrement la torture pour obtenir des confessions, affirme Amnesty International dans un communiqué.
En Mauritanie, l'ex-général Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani a prêté serment ce jeudi, parachevant ainsi la première transition présidentielle pacifique dans ce pays où les coups d'État ont été longtemps la règle. Au micro de notre correspondant Mohamed Diop, l'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman, a déclaré hier que les États-Unis ont hâte de travailler avec le nouveau président mauritanien. Le diplomate américain a aussi salué l'alternance démocratique en Mauritanie.
C'est vraiment très, très historique pour la Mauritanie et pour moi, comme l'ambassadeur américain en Mauritanie et comme un ami de la Mauritanie. C'était un vrai honneur d'être ici, non seulement pour la cérémonie d'investiture aujourd'hui, mais aussi pour l'élection et tout le processus démocratique que nous avons vu dérouler depuis ces derniers mois. Il m'a inspiré beaucoup, les discours de la présidence sortante, de la présidente élue, président Ghazouani, même aussi le discours de le président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous un sens d'optimisme pour l'avenir de la Mauritanie. Nous avons salué, et je salue encore une fois, l'administration de président Aziz et les décisions de la présidente de permettre les élections de continuer en accord avec la Constitution. Et nous saluons l'élection du président Ghazouani et nous sommes hâte de travailler fortement avec le président Ghazouani sur les questions importantes pour les deux pays, l'économie, la sécurité et les droits de l'homme.
L'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman, propos recueillis par notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. L'actualité aux États-Unis même maintenant, le président Donald Trump a relancé hier le bras de fer commercial avec la Chine en annonçant qu'il allait imposer 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises aux États-Unis jusque-là épargnés. Les précisions avec Irénée Hermann Humbo.
Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a écrit le président Trump, précisant que les négociations qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin aux différends commerciaux entre les deux pays allaient se poursuivre comme prévu. Il justifie sa décision par le fait que Pékin n'a pas tenu, selon lui, deux engagements très importants, achat massif de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l'un des principaux producteurs. L'annonce du président a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Le pétrole a chuté de 6% à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street sont passés au rouge. Les négociations entre Américains et Chinois ont pourtant repris cette semaine à Shanghai. Les deux parties ont fait état de discussions productives et promettent de reprendre langue en septembre à Washington pour tenter de mettre fin à ce conflit.
Et pour terminer, les États-Unis ont confirmé aujourd'hui leur sortie officielle du traité de désarmement ANF en accusant à nouveau la Russie de violer ce texte bilatéral emblématique conclu pendant la guerre froide et d'être seul responsable de son échec. Moscou, qui avait également suspendu sa participation au traité, a réagi à la fin de cet accord clé en proposant un moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.